Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un déjeuner au goût d'essence, face à face Castex-Macron pour définir la mesure contre la hausse du carburant, baisse des taxes ou chèque carburant. Une troisième voie pourrait être explorée, réponse attendue ce soir ou demain. À propos de pétrole, l'article scientifique qui accuse Total, le groupe savait depuis les années 70 qu'il polluait, mais n'a rien dit et même tout fait pour continuer. Conclusion de travaux de chercheurs au CNRS, à Sciences Po, à Stanford. Faut-il aujourd'hui croire les professions de foi climatiques de Total? Question à l'économiste Philippe Chalmin. La petite recrudescence du Covid amorce d'une nouvelle vague ou rien d'inquiétant. À 13h30, le point de l'épidémie avec le professeur Antoine Flao, invité du 13-14. Et vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. François Hollande cogne fort, Emmanuel Macron, les candidats à l'Elysée, regard très sévère de l'ancien président sur France Inter ce matin. Voici ce qu'il dit de son successeur.
Il n'a pas de doctrine. Il avance, il est pragmatique, il change au gré des événements, c'est pas le en même temps, c'est l'air du temps. Mais un pays a besoin d'avoir un sens.
Et tout à l'heure, les propos sur Éric Zemmour. Zemmour dans le vif de l'histoire. Avant 14h, Jean Lebrun s'intéresse à l'historien que cite fréquemment le polémiste Jacques Bainville. Dans l'actualité encore, l'hôpital manque de bras encore plus qu'avant la crise. Un attentat à Damas, au moins 14 morts. L'affaire de la sextape devant la justice. La commission sur l'inceste, déjà 4000 appels. Le pass sanitaire, finalement pas obligatoire pour les personnels de l'hôpital de Martinique. Et puis la météo, alerte au vent en Bretagne et Normandie. Vos rendez-vous dans le 13-14. La chronique cinéma de Corinne Pellissier, le feuilleton avec le dernier guitariste de Brassens. Et puis c'est une chanson, aujourd'hui nous écouterons du Demis Roussos. Mais oui, le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le bouclier énergie contre la hausse du gaz et de l'électricité représente 5 milliards de manques à gagner pour l'État. Et il va falloir remettre la main au pot pour aider ceux que la hausse de l'essence et du gasoil handicap. Comment trouver une mesure marquante, mais dont le coût ne soit pas exorbitant? Comment aider les automobilistes sans pousser à la consommation les propriétaires de SUV? C'est toutes ces questions que le président et le premier ministre détaillent lors d'un déjeuner. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
En direct de l'Elysée avec les moyens techniques d'Olivia Branger pour France Inter. Le dilemme semble se résumer en deux formules, baisse des taxes ou chèque carburant, à moins que...
À moins que, oui, à moins que l'exécutif trouve une autre issue. Et justement, Bruno, eh bien, Bercy, ce midi, propose une troisième voie, une solution qui, idéalement, n'aurait pas les inconvénients des deux pistes que vous avez citées, Bruno. Le chèque carburant, qui permet de cibler, oui, les Français qui en ont le plus besoin, mais qui est aussi très compliqué, très long à mettre en place. Et puis, la baisse des taxes, beaucoup plus facile à mettre en œuvre, plus facile aussi à vendre politiquement, mais aussi très, très coûteuse. Alors, la solution miracle, il faut qu'elle soit efficace, juste et simple à comprendre, explique le gouvernement. Le problème, et au sein de l'exécutif d'ailleurs on le reconnaît, le problème c'est qu'elle n'existe sans doute pas.
Et politiquement, le gouvernement joue gros dans cette affaire.
Très gros, à moins de 6 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron veut éviter, bien sûr, une révolte type gilet jaune, mais à l'Elysée, on a identifié un autre risque, la colère des col blanc, pour reprendre les mots d'un conseiller. C'est classe moyenne supérieure qui paie, elle aussi, cette flambée des carburants et qui, accessoirement, représente une bonne partie de l'électorat macroniste.
Alors,
la nécessité, Bruno, de trouver la solution qui touche le plus de monde possible sans trop gréver les finances publiques. Vous voyez l'ampleur du casse-tête.
Entre col blanc et gilet jaune, quand on les annonce, Simon?
Le plus rapidement possible, vous l'avez dit, le président et le premier ministre déjeunent ensemble ici à l'Elysée. Les réunions se poursuivent dans le même temps à Bercy, à Matignon. Jean Castex veut pouvoir faire des annonces dès demain matin, voire dès ce soir si possible. Le pouvoir d'achat est devenu en un rien de temps un sujet majeur de la campagne. Les oppositions en font un angle d'attaque contre Emmanuel Macron. Les troupes du président ont bien compris qu'il était urgent de réagir.
Simon Le Baron en direct de l'Elysée avec Olivia Branger. Alors cela dit, le chèque carburant existe déjà. Et c'est un des candidats à la présidentielle qu'il a lancé dans sa région, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Il l'a lancé il y a 5 ans. Près de 50 000 automobilistes touchent 20 euros par mois. Quel bilan, Delphine Evenou?
Le succès est exponentiel. 13 000 bénéficiaires au départ, 48 000 l'an dernier, près de 49 000 demandes déjà enregistrées pour 2021. Pour toucher cette aide, versée par trimestre, il faut répondre à des critères précis. Antoine Silani, conseiller régional LR en charge de la vie associative.
Il faut gagner au maximum 2 SMIC par mois, travailler à plus de 20 km de son lieu d'habitation, également habiter dans une zone qui n'est pas desservie par les transports en commun. Si on habite dans une zone urbaine, on a le droit aussi à ce dispositif si on travaille en horaire décalé. Je pense notamment à l'aide-soignante qui travaille de nuit ou la personne à l'usine.
Le chèque carburant est aussi ouvert aux covoitureurs, à certains étudiants, aux familles d'élèves en internat ou structures spécialisées éloignées, mais pas aux demandeurs d'emploi, ce que regrette Marine Tondelier, élue écologiste d'opposition. Elle aimerait par ailleurs que Xavier Bertrand, le patron de la région, réfléchisse aussi à des solutions à long terme.
On a quelqu'un qui se présente en sauveur du pouvoir d'achat des ménages d'une main, mais qui de l'autre continue à mener des politiques publiques qui nous mettent dans le mur. Quand vous habitez dans un endroit du Nord-Pas-de-Calais ou de Picardie, vous n'avez pas de transport en commun ou pas assez cadencé, ça c'est pas possible. Et Xavier Bertrand, s'il ne mène pas des politiques publiques qui vont permettre de sevrer notre société de la dépendance aux énergies du passé, alors on n'y arrivera pas.
Ce chèque carburant coûte à la région plus de 9 millions d'euros par an.
Les mesures contre la hausse du carburant attendues ce soir ou demain, donc une autre mesure est attendue, celle sur le revenu d'engagement pour les jeunes. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Le dispositif sera probablement moins ambitieux qu'envisagé au départ.
Oui, exit le revenu d'engagement. Le gouvernement cherche déjà un nouveau nom, rabote l'enveloppe prévue au passage, 500 millions d'euros contre 1,5 milliard annoncé cet été. La cible d'un million de jeunes décrocheurs n'est plus dans le spectre du dispositif trop lourd, trop coûteux de l'affichage social. Pour ne pas dire la connotation assistanat du mot revenu est écartée. Le gouvernement pense plutôt du côté d'un parcours pour les jeunes en grande précarité plutôt qu'un revenu ouvert à tous les moins de 25 ans. 300 à 400 000 jeunes, 50 000 en grande précarité sont désormais ciblés contre 1,5 million de jeunes décrocheurs cet été. Au-delà de l'enveloppe rabotée, la philosophie du projet n'est plus la même, se désole Antoine Dulin au Conseil d'orientation des politiques jeunesse.
L'idée qui avait été annoncée par le président de la République le 12 juillet, c'était de faire un revenu pour tous les jeunes ni en emploi ni en formation. Donc il y avait cette ambition de se dire on comblait les failles de notre système de protection sociale en considérant que les jeunes qui étaient sans soutien familial, qui s'engageaient dans un parcours d'insertion, pouvaient bénéficier à la fois d'un accompagnement et d'une allocation. Aujourd'hui, le gouvernement renonce à cette dynamique ambitieuse pour juste remettre de l'argent dans des dispositifs qui existent déjà. On n'est plus dans une logique de rendre beaucoup plus lisible l'insertion et éviter qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent sans solution sur le territoire.
Alors le gouvernement est toujours en brainstorming sur un nouveau nom, les arbitrages financiers sont toujours sur la table et une nouvelle fois retardés.
Un ancien président de la République inquiet pour son pays était ce matin l'invité de France Inter. François Hollande publie aujourd'hui aux éditions Stock un livre intitulé « Affronter », un état des lieux politique avant la campagne de 2022. La France, dit-il ce matin à Léa Salamé et Nicolas Demorand, va affronter une grande mutation écologique, industrielle, éducative, sociale, et elle va l'affronter dans un désordre politique inédit. Et il a des mots durs pour les hommes et femmes politiques au pouvoir ou en campagne. Emmanuel Macron, pas de doctrine, il est pragmatique, intelligent, mais change au gré des événements. Jean-Luc Mélenchon, fardeau pour la gauche, gauche qui multiplie les candidatures lilliputiennes, minuscules. Quant à Éric Zemmour, voici ce qu'il dit de ses thèses. Elles sont
bien plus identitaires et bien plus extrêmes que celle de Madame Le Pen. Parce que la différence, c'est que Madame Le Pen veut arrêter l'immigration, mais Zemmour, il veut expulser des Français au prétexte qu'ils sont issus de l'immigration. Éric Zemmour, mais ceux qu'ils soutiennent, ce sont des candidatures de scission. Scission de la France par rapport à l'Europe, scission des Français entre eux, scission même de l'économie par rapport au monde. Et j'allais dire même scission entre les orientations sexuelles, scission entre les origines. C'est finalement la séparation. Et donc ça mérite que nous puissions engager cette bataille d'idées. Mais c'est quand même néanmoins important de comprendre que quand les Français n'ont plus de vision d'avenir, ils se réfugient dans le passé, un passé travesti, un passé manipulé, un passé instrumentalisé.
François Hollande sur France Inter ce matin, l'intégralité de l'entretien est à réécouter sur franceinter.fr. Vous trouverez aussi l'essentiel de ses propos dans un article sur notre site. Au départ, il y a deux hommes qui gravitent dans le milieu du foot, récupèrent une vidéo intime d'une des stars de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Qu'ont-ils fait de cette vidéo? Ont-ils essayé d'extorquer de l'argent aux joueurs? et à un moment ou à un autre, Karim Benzema, coéquipier de Valbuena en bleu, a-t-il joué les intermédiaires? Le procès de l'affaire de la sextape qui perturbe la vie de l'équipe de France depuis 6 ans s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Versailles. Benzema, redevenu après une longue absence une des vedettes de l'équipe de France, en cours 5 ans de prison. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
En direct du tribunal de Versailles, Benzema n'assiste pas à l'audience.
Non, la star du Real Madrid ne s'est pas présentée à la barre. Son avocat explique qu'il avait un match hier soir et un autre dimanche. Des obligations professionnelles, ce qui fait réagir l'avocat de Mathieu Valbuena. Il a préféré ses rendez-vous sportifs au fait de se présenter ici devant vous, alors qu'il clame son innocence depuis plus de 5 ans. Les 4 autres prévenus, eux, sont bien là et le premier à s'expliquer, c'est la voix des maîtres chanteurs. Celui qui a appelé Valbuena en numéro masqué en 2015, celui qui a envoyé plusieurs SMS de menaces aux joueurs et aux négociateurs, Lucas qui était en fait policier. Le prévenu Younes Ouass explique qu'au téléphone, Valbuena avait l'air groggy, dépassé. Je lui ai conseillé de prendre un homme de confiance, on a parlé sereinement. Ce n'est pas le souvenir de Mathieu Valbuena, il dit s'être senti en danger. Le prévenu assure avec de grands gestes que dans cette histoire, il voulait juste aider, informer. Le président rétorque, arrêtez de vous faire passer pour Mère Teresa.
Mathilde Vinceneux en direct du tribunal de Versailles, la belle image du foot. C'est aussi le ministère de l'Intérieur qui interdit tout déplacement de supporters parisiens lors du match de championnat dimanche à Marseille. Les débordements et violences sont trop fréquents. Hier, Benzema jouait en effet avec le Real Madrid sur le terrain de Donetsk. Victoire 5-0 des Espagnols. Le Français a marqué un des 5 buts. Les élèves et le personnel du collège Max Jacob de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, évacués ce matin. C'est une information de nos confrères de France Bleu Orléans. Une alerte à la bombe. Un homme a appelé l'accueil de l'établissement en menaçant de tout faire sauter. Latifa Benziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah, tenait une conférence dans le collège.
France Inter, Bruno Duvic.
En changeant de nom au mois de mai et devenant Total Énergie, le groupe pétrolier français affichait sa volonté de tenir compte du changement climatique et devenir l'un des acteurs importants de la transition dans le domaine de l'énergie. Quelle est la sincérité de cette démarche? Un article de la revue Global Environmental Change détaille la duplicité de la compagnie pendant 20 ans, dans les années 70 et 80. Des chercheurs du CNRS, de Sciences Po, de l'Université américaine de Stanford ont épluché les archives de Total, des interviews de responsables. Et le constat est le suivant, le groupe savait dès 1971 que la combustion d'énergie fossile augmente de manière préoccupante la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais cette connaissance a été passée sous silence et jusqu'à la fin des années 80 au moins, l'entreprise française agissait contre les politiques de réduction des gaz à effet de serre. Le changement est arrivé progressivement selon cet article à partir des années 90, même si ce n'est que dans les années 2000 que l'on cesse de minimiser l'urgence. Après la publication de cet article, notre invité est le professeur d'économie à Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie, Philippe Chalmin. Bonjour, monsieur Chalmin.
Bonjour.
Êtes-vous surpris par la publication et la teneur de cet article?
Oui, parce que je trouve que c'est une insigne mauvaise foi. Il faut effectivement se replonger dans le climat des années 70, et je dirais même avant le premier choc pétrolier. Nous avons, à ma génération, eu un livre de chevet, une véritable Bible, qui a nourri d'ailleurs un certain nombre de vocations écologiques. C'était le rapport au Club de Rome, publié en 1971, Halte à la croissance. Et dans Halte à la croissance, que nous disait-on? On va manquer de pétrole avant la fin du siècle, le monde ne sera pas capable de se nourrir, etc. Et dans les préoccupations de l'époque, le changement climatique n'était absolument pas pris en compte. Donc il faut bien se rendre compte que la préoccupation pour un pétrolier dans les années 70, alors que le monde est confronté en 1973 au premier choc pétrolier, en 1979 au deuxième choc pétrolier, la préoccupation, c'est de satisfaire la croissance et donc de trouver, d'exploiter du pétrole et du gaz.
Alors après la
prise de conscience, elle n'est venue, à mon sens, que dans les années 80, lorsque le GIEC va pour la première fois publier ses travaux.
80-90. Dans un communiqué à l'AFP et puis auprès de France Inter, après cet article, Total dit « La connaissance que nous avions du risque climatique n'était en rien différente de la connaissance émanant des revues scientifiques de l'époque. » C'est à l'image, dites-vous, des pratiques menées par toutes les compagnies à la même époque ?
Je dirais qu'à l'époque, et encore quand même aujourd'hui, un groupe pétrolier, les grands, ce qu'on appelait les sept sœurs à l'époque, leur souci, c'était de sécuriser des sources d'approvisionnement dont le monde avait besoin. Je le répète, la préoccupation climatique ne commence à être prise en compte que beaucoup plus tard. Le problème de ce que l'on disait à l'époque, c'est que oui, il faut que nous changions notre modèle de croissance parce que nous n'aurons pas assez de ressources naturelles pour pouvoir l'entretenir. C'était ça la préoccupation.
Et Philippe Chalmin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut prêter foi aux affirmations de Total, désormais Total Énergie, quand ils disent on est engagé dans la transition énergétique, ou est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes entre le cœur de métier de Total et la lutte contre le changement climatique?
Ben écoutez, Total est une entreprise énergétique. On a toujours besoin, et vous avez toujours besoin quand même de mettre de l'essence dans votre voiture, donc on a toujours besoin de pétrole, et il n'y a rien de répréhensible à continuer à produire du pétrole. Total est très engagé aussi dans le domaine du gaz, et nous venons de nous rendre compte combien le gaz allait jouer un rôle important comme une sorte de maillon entre le temps du pétrole et du charbon et le temps des renouvelables. Et par ailleurs, Total est quand même aussi investi, par exemple, dans un domaine capital qui est celui du stockage de l'énergie. Donc, je trouve que la stratégie de Total est peut-être d'ailleurs plus franche que celle de certains de ses concurrents, modèle BP, qui disent « nous, on va laver plus blanc, etc. ». Je crois que Total dit « nous sommes toujours des producteurs de pétrole et de gaz, puisque le monde en a besoin ». Et puis, leur changement de logo est quand même relativement symptomatique. Ben, Total Énergie, ça veut dire que nous essayons de couvrir l'ensemble de la palette des énergies, à l'exception peut-être du nucléaire.
Merci Philippe Chalmin d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Professeur d'économie à Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Les conclusions de l'article scientifique dont je vous parlais au début de cette intervention sont à retrouver sur franceinter.fr. L'actualité à l'étranger, 10 ans et 350 000 morts plus tard. La Syrie reste un pays en guerre. Et c'est la capitale, Damas, qui a été touchée ce matin. Elle qui n'avait pas connu d'attaque aussi meurtrière depuis 4 ans. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Un attentat contre des militaires qui fait au moins 14 morts.
Oui, et l'attentat a lieu effectivement au cœur même de la capitale syrienne. 2 bombes au passage d'un bus de militaires. Une troisième désamorcée, assure les autorités syriennes qui ont diffusé des photos du véhicule en cendres. Une heure plus tard, l'armée syrienne bombarde un marché à Haria, dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, là où la rébellion et les djihadistes sont encore actifs. 11 personnes tuées, dont 7 écoliers. Alors que les regards se sont détournés de la situation syrienne, la guerre, on le voit, n'est donc pas finie. Sous l'égide des Nations Unies, le gouvernement et l'opposition viennent de s'accorder pour élaborer une nouvelle constitution. Une avancée rendue possible par la pression de Moscou, qui veut désormais que la situation se stabilise en Syrie. Moscou qui a également poussé son partenaire iranien à réduire sa présence militaire auprès du régime. Mais l'attentat de ce matin et le bombardement massif dans la foulée à Idlib mettent à mal les efforts de Bachar al-Assad pour rassurer la communauté internationale sur la stabilité de la Syrie, afin de sortir la Syrie de l'isolement, afin de la rendre fréquentable pour les investisseurs, des investissements essentiels pour un pays détruit par 10 années de guerre.
Au Brésil, c'est beaucoup plus qu'un reproche de mauvaise gestion de la pandémie. Une commission d'enquête parlementaire au Sénat brésilien va demander aujourd'hui l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour une série de crimes intentionnels lors de cette pandémie qui a fait plus de 600 000 morts dans son pays. Valentin Winato.
Au total, 9 chefs d'accusation sont retenus contre Jair Bolsonaro. Crime contre l'humanité, charlatanisme ou encore prévarication, c'est-à-dire grave manquement d'un chef d'État à ses devoirs. Avant-hier, lundi, la commission entendait les témoignages de famille des victimes, comme celui de Márcio Antônio Silva.
Et daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada.
Ce chauffeur de taxi a perdu son fils de 25 ans des suites du Covid. Au bord des larmes, devant la commission, il dit « Nous méritons des excuses de la part de la plus haute autorité de l'État. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de vie. » Après 6 mois d'enquête, les conclusions de ce rapport de près de 1200 pages sont édifiantes. Il est par exemple question de traitements testés sur des cobayes humains ou d'une pénurie d'oxygène à Manaus dans le nord du pays, ce qui avait entraîné la mort de plusieurs patients par asphyxie. Pour le reste, la commission d'enquête est claire. Les manquements du gouvernement Bolsonaro étaient bien intentionnels. Des accusations graves mais qui ne devraient avoir qu'une portée symbolique, tout simplement parce que cette commission n'est pas un tribunal. Elle peut seulement transmettre ses conclusions à la justice. Oui, mais voilà, Jair Bolsonaro, lui, est un proche du procureur général, procureur qui peut faire barrage à toute inculpation.
Une nouvelle dissolution d'association, l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie basée dans le Rhône, a été dissoute ce matin au Conseil des ministres, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il explique que cette association appelle à la haine, à la violence et à la discrimination. C'est pire qu'avant la crise sanitaire. L'hôpital manque de bras encore et toujours. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
C'est la conclusion de la Fédération hospitalière de France qui a mené l'étude auprès des hôpitaux et établissements publics de santé.
Et ce sont surtout sur les postes d'infirmiers que la situation est la plus tendue. L'Île-de-France est particulièrement touchée, mais de façon nationale, les établissements de santé manquent surtout d'infirmiers anesthésistes ou de blocs opératoires. L'intérim jusqu'ici très utilisé n'arrive plus à suivre. Erwan Paul est le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes.
Ça s'accroît sur certains blocs, et notamment les blocs dédiés aux prises en charge urgentes qui travaillent 7 jours sur 7 et 24-24. Donc là, on a des difficultés à recruter et on est obligé, au vu des spécificités, de faire appel à des heures supplémentaires parce que les sociétés d'intérim ne répondent pas nécessairement sur ce type de besoin et n'ont pas forcément, par ailleurs, sur l'agglomération rennaise, de possibilités de nous aider.
Et cette situation n'a rien à voir avec l'obligation vaccinale, expliquent les DRH interrogés par la Fédération hospitalière de France. Selon eux, la situation est plus tendue qu'en 2019 avant la crise et même, pour la majorité, plus tendue qu'en 2020 en pleine pandémie. Actuellement, le taux d'absentéisme des salariés y est de 10% et le taux de postes vacants entre 2 et 5%. Un chiffre plus ou moins similaire aux années précédentes. La différence, c'est qu'il reste vacant beaucoup plus longtemps, précise Amélie Roux, responsable du pôle ressources humaines de la FHF.
Concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'attendre 2 semaines, par exemple, pour organiser un remplacement, parfois il faut attendre 1 mois, parfois 6 semaines, ce qui évidemment est source de désorganisation dans l'établissement.
Et la relève se fait attendre. Les DRH font remonter dans cette étude leur difficulté à recruter à la sortie des écoles. Les jeunes professionnels de santé se détourneraient selon eux de l'hôpital ou retarderaient leur entrée sur le marché du travail.
À propos du Covid, Conseil de défense sanitaire ce matin en question, les 4 millions de personnes qui sont éligibles à la troisième dose de vaccin et qui ne l'ont pas utilisée, les 4 millions en question pourraient perdre leur passe sanitaire s'ils ne font pas le rappel. Cela fait partie des sujets qui devaient être évoqués ce matin. La petite recrudescence du Covid doit-elle inquiéter? Quelles mesures de précaution maintenir, lesquelles lever à court ou moyen terme? À 13h30, l'épidémiologiste Antoine Flao est l'invité du 13-14. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. En Martinique, un accro à l'application intransigeante du pass sanitaire. Depuis lundi, il était exigé pour les visiteurs et salariés du CHU. Eh bien, la direction de l'hôpital de Fort-de-France annonce que tous les personnels du centre hospitalier pourront entrer dans leur service avec ou sans passe sanitaire. Des affrontements ont eu lieu vendredi dernier entre forces de l'ordre et anti-pass. Le contexte, c'est aussi l'afflux de nombreux malades du Covid encore, à cause du faible taux de vaccination. Serge Haribaud est l'un des leaders syndicaux de l'hôpital.
Il s'agit de regarder la réalité du terrain qui montre qu'aujourd'hui, le nombre de vaccinés ne permet pas la continuité des soins sur le territoire. Il y a un allègement mise en place par la direction concernant non seulement le test, mais ce qu'on appelle le pass sanitaire, que le personnel n'aura pas à nécessairement présenter pour rejoindre son lieu de travail.
C'est-à-dire que les agents seraient prêts à faire des tests, si je comprends bien.
Les agents ont toujours fait des tests. Par contre, il s'agit de tests de contrôle. Nous ne sommes pas dans de tests individuels de contrôle, nous ne sommes pas dans le cadre de pass sanitaire présenté.
Propos recueillis par nos confrères de Martinique la première. C'est un des phénomènes d'embouteillage post-Covid, comme il y en a dans beaucoup de secteurs. Les délais s'allongent pour le renouvellement d'un passeport ou d'une carte d'identité. L'Agence nationale des titres sécurisés évalue ce délai à 40 jours. Il y a un mois, le co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Édouard Durand, était l'invité du 13-14. Il lançait alors un appel à témoignages et présentait les numéros de téléphone pour ceux qui souhaitent joindre la commission. Un mois plus tard, le tout premier bilan est éloquent. Édouard Durand, ce matin, avec nos confrères de France Info.
Depuis près d'un mois maintenant, quasiment jour pour jour, nous sommes autour de 4000 témoignages, tous modes de communication confondus. C'est donc un mouvement d'une très grande ampleur. La plateforme téléphonique est très sollicitée par les personnes qui ont dit dès le premier jour « j'ai attendu ce moment toute ma vie ». Et puis il y a des personnes qui nous écrivent, il y a de nombreuses personnes qui se connectent à notre site internet ciivise.fr pour renseigner le questionnaire, documenter les mécanismes à la fois loi de la violence et les mécanismes de la protection. C'est donc un mouvement qui était souterrain et qui émerge. Nous avons déjà effectué à peu près une vingtaine de signalements à l'autorité judiciaire et nous sommes en dialogue avec les personnes qui nous contactent pour les soutenir dans leur besoin d'être accompagnées sur le plan social, sur le plan judiciaire quand elles souhaitent faire des démarches et aussi sur le plan sanitaire.
Édouard Durand, ce matin sur France Info, je vous rappelle les numéros pour joindre la commission en métropole 0805 802 804 de 10h à 19h. Pour l'Outre-mer, c'est le 0800 100 811. Vous pouvez également aller sur le site de la commission civis.fr. Civis s'écrit C-2-I-V-I-S-E. Nous en venons à la sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
On commence avec une chanson des Wampas pour se mettre dans l'ambiance des héroïques. Héroïque, premier film d'un jeune réalisateur, Maxime Roy, autour d'un père toxicomane qui essaye de s'en sortir.
Voilà, il est drôlement touchant, Michel, avec sa gueule de travers, ses tatouages, son parler verlan qui lui donne un petit côté années 80, ancien toxicomane, fou de moto, une fiancée qu'il a quittée, un bébé de 10 mois dont il doit s'occuper après 22 ans de méthadone. Le chemin sera long et difficile pour ce personnage qui va d'emblée susciter de l'empathie. En dépit de son addiction, de tous ses défauts, François Creton, le comédien qui incarne Michel, y est pour beaucoup. Jusqu'à présent, on connaissait surtout sa voix à travers des doublages d'animation. Il donne au personnage vraiment une ampleur, un ton très juste, un peu comme dans une chanson de Renaud ou alors dans une chanson des Wampas, comme on vient de l'entendre. Le morceau est sur la BO et c'est l'une des bonnes surprises de ce mercredi.
Les héroïques, un deuxième choix au contenu. Attention, contenu très explicite. Le film s'appelle Pleasure. Il a remporté cette année le prix du public au festival de Deauville.
Alors là, c'est un film coup de poing dans les coulisses de l'industrie du porno à Los Angeles, auquel on pourrait presque donner une valeur documentaire, tant la réalisatrice Ninja Taiberg a travaillé à partir de situations qui ont réellement existé. L'histoire, c'est celle d'une jeune Suédoise, Bella Cherry, 19 ans, décidée à tout tenter pour devenir la nouvelle star du X. Mais dans la vie, évidemment, tout ne se passe pas comme sur Instagram. Ce sera donc la grande désillusion. Pleasure est un film évidemment très frontal, très cru, pour un public averti, avec des scènes très explicites. Mais c'est aussi une lecture féministe d'un milieu un peu opaque, qu'on connaît peu, à travers le parcours d'une héroïne qui s'affirme, pour une autre manière d'aborder le thème du consentement au cinéma.
Pleasure après héroïque, et le troisième choix de ce mercredi, Corinne Balzac, le retour.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Après Eugénie Grandet, c'était quoi? Il y a 15 jours, Eugénie Grandet?
15 jours, 3 semaines, oui.
Les Illusions perdues font l'objet cette semaine d'une adaptation au cinéma. Réalisateur Xavier Giannoli, c'est une réussite.
Ah ouais, une mise en scène spectaculaire pour un grand film populaire qui devrait plaire à tous les publics, notamment pour sa modernité, dans son approche de la société, des thèmes qu'il développe, à commencer par le pouvoir de l'argent. Un film où tout s'achète, tout se vend, la littérature, la presse, la politique, jusqu'à votre réputation, Bruno. C'est ce qu'apprendra à ses dépens le jeune Lucien de Rubempré, le jeune poète monté à Paris dans l'espoir d'y devenir un grand écrivain. Comme l'héroïne du précédent film, eh bien ce sera pour lui la douche froide avec Benjamin Voisin, parfait dans le rôle du naïf ambitieux. Tout le casting d'ailleurs est super. Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Xavier Dolan, Cécile de France et Gérard Depardieu. En éditeur tout puissant qui ne sait ni lire ni écrire, le film est cynique à souhait, cruel, souvent jubilatoire. Balzac toujours aussi puissant et pertinent autour de ces petites phrases qui font le buzz, des polémiques et de la domination des influenceurs.
Et c'est un film France Inter, Les Illusions perdues, Pleasure et Héroïque. Voici les trois conseils de cette semaine de la part de Corinne Pélissier. Merci Corinne et bonne semaine à vous. Dans un instant, la météo puis l'invité du 13-14.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
France Inter aime
Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski, mis en scène par Sylvain Creusevaux du 22 octobre au 13 novembre à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Lequel des frères Karamazov a pu commettre le crime de tuer le père, l'ignoble Fiodor? Sylvain Creusevaux et sa troupe adaptent ce monument de la littérature russe. Un polar en trompe-l'œil, une réflexion mystique, une farce énorme et mesquine. Les frères Karamazov à l'Odéon, avec le Festival d'automne à Paris, un spectacle France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Attention au vent dans l'ouest cet après-midi.
Oui, non, c'est plutôt ce soir en fait. Soirée et la nuit s'annoncent agitées à cause du passage de la tempête Aurore. Tempête plutôt classique pour la saison. Déjà en fin d'après-midi, des rafales jusqu'à 90 km/h toucheront l'ouest de la Bretagne. Les plus fortes rafales sont à craindre entre la soirée, la nuit et demain matin entre les côtes de la Manche, le Finistère et la Gironde, jusqu'au Lyonnais et au Grand Est. Dans les terres, le vent atteindra 80 à 100 km/h, mais sur le littoral, des pointes à 120-130 km/h, voire plus, sont attendues. Météo France a déjà placé la Manche, le Morbihan et le Finistère en vigilance orange. Côté ciel, il faudra composer avec un ciel chargé le plus souvent cet après-midi. Prévoyez aussi des pluies du Poitou-Charentes à la Gironde jusqu'en Bourgogne, aux Ardennes et à la Lorraine et de fréquentes averses sur la Bretagne et la Basse-Normandie. Averses qui pourront tourner à l'orage en fin d'après-midi. On trouvera plus de soleil entre les Pyrénées et la Garonne et entre l'Alsace, le Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse.
Sébastien Léas, Météo France, tout de suite l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Depuis une semaine, l'épidémie recommence à gagner du terrain. On parle d'un niveau très faible, mais il faut être vigilant. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement hier. De fait, le taux d'incidence du virus augmente légèrement depuis le début du mois. 20 départements de métropole sont au-dessus du premier seuil d'alerte à 50. Taux d'incidence le plus élevé pour les Bouches-du-Rhône, 106. Au-delà des 50 également, Guadeloupe, Martinique, Guyane. La Guyane à 264. Alors est-on au tout début d'une nouvelle vague ou bien le taux de vaccination? Près de 50 millions de Français complètement vaccinés nous protège-t-il et pour combien de temps? Un nouveau conseil de défense sanitaire se tenait ce matin. 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions. Notre invité est l'épidémiologiste et professeur en santé publique à Genève, Antoine Flahaut. Bonjour Antoine Flahaut.
Bonjour.
Moins de 5000 contaminations quotidiennes, des niveaux d'hospitalisation relativement bas, mais une petite recrudescence du virus dans le pays. Comment qualifiez-vous ce moment? C'est le début d'une nouvelle vague?
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une situation de décrue épidémique en ce moment. Donc la France est dans une situation très favorable, avec finalement très peu de pays européens dans cette situation. On peut citer l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse et la France. Voilà les pays qui bénéficient aujourd'hui de cette accalmie. Pourquoi ? Parce que les autres, justement, sont sous l'effet de ce rebond que l'on peut redouter en France par des premiers signes que vous dites, qui est qu'on voit remonter en effet. On ne voit plus descendre, en tout cas, la courbe épidémique, et on voit remonter dans certains départements circulation du virus qui pourrait laisser craindre que finalement ce mouvement qui vient de l'Europe centrale et de l'Est, il y a des épidémies très, très très fortes en ce moment en Roumanie, en Russie, en Bulgarie, en Ukraine, et qui commence un petit peu à diffuser, je dirais, sur les Pays-Bas, sur l'Autriche, la Belgique, et qui pourrait arriver en France ces prochains jours.
On est toujours sur un variant Delta dans ces pays où il y a de nouveaux variants qui émergent?
Non, le variant dominant, c'est le variant Delta. Au Royaume-Uni, il y a un variant qu'on appelle le Delta Plus, qui émerge un peu, il représente 7 à 8% des souches. C'est un variant du variant Delta, mais il est sous haute vigilance parce qu'il est un peu plus transmissible que le variant Delta et il semble pouvoir échapper davantage au vaccin. Donc il serait fort déplaisant qu'il s'impose, mais il n'a pas l'air de s'imposer pour le moment. Il n'a pas une très forte transmissibilité supérieure au variant Delta. Donc pour le moment, c'est vraiment le variant Delta qui a gagné toutes les compétitions, on va dire, dans le monde et qui s'est imposé très rapidement parce qu'il était beaucoup, beaucoup plus transmissible que le variant Alpha qui précédait.
Ce qui est frappant en ce moment en France, c'est que les départements où le Covid augmente à nouveau, ce sont des départements ruraux, Deux-Sèvres, Aveyron, Lozère, ce sont des départements où en fait on partait très bas.
Oui, il faut toujours regarder ça avec un peu de précaution, parce que vous savez, quand un département est très peu peuplé, parliez de la Lozère, oui, par exemple. Il suffit de deux clusters dans un, oui, lycée, dans un EHPAD, pour que vous ayez l'impression que ça flambe. En fait, ces deux clusters, s'ils sont bien identifiés, peuvent être assez rapidement repris sous contrôle, et c'est pas nécessairement le démarrage de l'épidémie. Donc, d'une vague épidémique, en tout cas. Du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être vigilant. On sait que c'est comme ça que se transmet le virus. C'est toujours dans des milieux intérieurs fermés par aérosol, hein, autrement dit, et c'est souvent par des clusters, c'est-à-dire des chaînes de supercontamination qui vont concerner rapidement 25, 30, 40 personnes. Et à l'échelle d'un tout petit département, ça fait une augmentation très rapide.
On est au-dessus ou en dessous du R1 en ce moment, Antoine Flahault, en France, c'est-à-dire de cette situation où une personne contaminée en contamine une, voire un peu plus.
Alors oui, vous parlez du taux de reproduction, ce, oui, R. Quand il est en effet supérieur à 1, c'est qu'on est en courbe de croissance exponentielle. Et quand il est inférieur à 1, c'est que l'épidémie est sous contrôle. On n'est plus dans une épidémie sous contrôle avec un R inférieur à 1 en France. On a un petit peu au-dessus. La seule difficulté qu'on a en France actuellement, c'est que la France a décidé la fin de la gratuité des tests le 15 octobre. Oui. Et ça crée une petite turbulence momentanée, hein. Ça va durer une semaine, mais pendant une semaine, nos prévisions et même nos chiffres de situation épidémique ne sont pas très précis et probablement sont un peu biaisés vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le R en France est à 1,03. Pour ma part, je ne serais pas surpris qu'en fait il soit plutôt à 1,10, un peu sous-estimé, autrement dit, à cause de cet effet de diminution du nombre de tests et donc de diminution du nombre de nouveaux cas en France.
On va au standard dans un instant à propos de la troisième dose, Antoine Flahault. Juste une question, le gouvernement, il y a eu des débats épiques à l'Assemblée hier à propos de la prolongation de la possibilité, au fond, d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Est-ce qu'il faut garder cet instrument à disposition, sous le coude, pour pouvoir le sortir dès que nécessaire?
Alors, le pass sanitaire a été un instrument très astucieux, employé par d'abord les Danois en avril, ils appellent ça le Corona Pass, en avril dernier, puis par les Italiens, puis par les Français et puis les Suisses. Très astucieux parce que il a réussi à juguler cette vague de liée au variant Delta d'ailleurs, hein, que nous avons tous connu en Europe au mois de juillet-août. Les Britanniques qui ont levé le pass le 19 juillet et l'usage du masque également, oui, ont aujourd'hui une situation très différente et même très compliquée, avec 140 morts par jour et 45 000 cas par jour. C'est pas du tout la situation des Français. Donc, je dirais que vouloir garder cet usage étendu du pass sanitaire, c'est se donner un instrument qui est peut-être capable d'éviter des confinements, qui est peut-être capable de garder sous contrôle cette épidémie. Sans parler d'un deuxième avantage qui était très clair pour la France, on espère en Suisse qu'il sera aussi efficace, c'est qu'il a motivé une augmentation de la couverture vaccinale phénoménale, hein, puisque la France était à peu près au niveau de la Suisse, à 60%, elle plafonnait à entre 50 et 60% de couverture vaccinale au début du mois de juillet, et elle est montée à 75% aujourd'hui, ce qui la place dans le peloton de tête, hein, des pays européens les plus vaccinés.
Allez, la troisième dose, beaucoup de questions à ce sujet. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez à propos de cette troisième dose.
Oui, je voulais savoir si quelqu'un qui avait une sérologie très récente, extrêmement positive, à plus de 47 000 unités pour un test qui est positif à partir de 150, est-ce qu'il y a un risque à faire une troisième dose? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et quel est votre avis sur la question?
Alors, professeur Flahault, je ne sais pas si vous pouvez répondre à une question aussi précise, mais je vous la soumets tout de même.
Oui, alors, je ne sais pas l'âge de la personne à laquelle Marie fait référence.
Quel âge,
65 ans. La personne a 68 ans, mais l'idée, c'est de savoir si, quand on a une sérologie très positive, la troisième dose peut, à un moment ou à un autre, être négative, même avoir quelques effets secondaires négatifs, ou c'est de toute façon pas grave.
D'accord. Alors, donc, à 68 ans, on a une indication de troisième dose tout à fait claire et tout à fait utile. Il n'y a aucune contre-indication à donner une dose avec un taux d'anticorps élevé. Il n'y a pas d'ailleurs de corrélation claire entre le taux d'anticorps et le niveau de protection. C'est dommage, mais c'est comme ça. On aimerait bien, en effet, pouvoir faire une sérologie, se dire « je suis protégé ». On ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il n'y a aucun problème particulier. Il y a même, les Israéliens ont une très grande expérience là-dessus. Ils ont vacciné, vous vous rappelez, tambour battant, en pleine période épidémique. Donc ils ont vacciné des gens qui étaient même en train de faire un Covid. Et ils avaient des anticorps au plafond. Ils n'ont pas eu de problème particulier avec la vaccination de ces gens-là. Donc je dirais, il n'y a pas de raison de ne pas vacciner cette personne avec cette troisième dose.
Est-ce que la situation au Royaume-Uni montre l'utilité de la troisième dose? Les Britanniques ont vacciné plus tôt que nous, donc il y a plus de personnes qui ont peut-être une immunité déclinante, un effet de vaccin déclinant. Ça montre la nécessité de la troisième dose, la situation britannique?
Non, c'est très débattu. Il y a très peu de preuves aujourd'hui que l'immunité est beaucoup baissée dans la population britannique. Chez les immunodéprimés, oui, bien sûr. Chez les personnes âgées, il y a ce qu'on appelle une immunosénescence. Hein, c'est un peu l'équivalent de la presbytie pour la vision dans l'immunité. C'est-à-dire qu'on perd son immunité avec l'âge. Et donc la troisième dose est recommandée très clairement chez les plus de 65 ans. Mais au Royaume-Uni, on ne peut pas attribuer ce que l'on voit aujourd'hui, qui est d'ailleurs surtout une vague qui se passe chez des jeunes et d'ailleurs beaucoup chez des non-vaccinés, mais aussi chez des vaccinés, parce que le vaccin n'est pas efficace à 100%, on le sait bien. Il est même efficace à 90% contre les formes graves, mais c'est pas 100%. Donc ça permet quand même, surtout quand la vague est importante, à ce qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient hospitalisées malgré la vaccination.
Sur cette troisième dose, au fond, quel est l'état de la science aujourd'hui? On va tous y passer à la troisième dose petit à petit? Pour l'instant, c'est 6 millions de personnes éligibles en France. Petit à petit, on y passera tous?
Alors, c'est le mot état pour la science qui n'est pas très bon ici, parce qu'il change tout le temps. C'est pas un état stationnaire, on va dire, en tout cas. Donc la science est très évolutive, les connaissances sont évolutives. Donc ce que je dis aujourd'hui sera probablement très changé, très modifié dans quelques mois ou quelques semaines.
On note la précaution.
Voilà. Disons qu'aujourd'hui, la troisième dose, elle est tout à fait clairement évidente à recommander chez les gens qui sont immunodéprimés. Mais ça, je crois que ça ne fait aucun débat. Chez les gens de plus de 65 ans, il y a quand même beaucoup de pays qui la recommandent aujourd'hui. Il y a beaucoup de données qui laissent penser que cette immunosénescence dont je parlais, c'est-à-dire cette baisse de l'immunité liée à l'âge, justifie une troisième dose. Chez la population adulte, jeune, de moins de 65 ans, il n'y a pas d'éléments très probants pour justifier une troisième dose. En tout cas, toutes les études, y compris même en France, qui ont été faites sur plus de 22 millions de personnes, ne montrent pas, pour le moment, une baisse sensible de la protection. Je dirais même qu'au contraire, on a toujours une très bonne protection de plus de 90% contre les formes graves. Donc pour le moment, je dirais non, pas de troisième dose chez les personnes adultes jeunes.
Professeur Flahault, la campagne de vaccination contre la grippe commence vendredi pour les personnes les plus fragiles en France. Quel est l'enjeu de lutter, je dirais, concomitamment contre grippe et Covid? C'est ne pas saturer le système de soins, c'est ça le premier enjeu?
Le premier enjeu, il est individuel, sanitaire. Oui. C'est que vous avez des maladies qui aujourd'hui bénéficient d'une protection par un vaccin. On peut donc éviter de souffrir, on peut éviter de mourir. Pour beaucoup de personnes âgées, il est capital de se vacciner contre la grippe, parce que c'est quand même stupide d'avoir des complications de la grippe aujourd'hui quand on peut les éviter par un vaccin indolore par ailleurs et très 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 bien toléré et très connu de longue date. On a un vaccin très sûr et efficace contre la Covid également. Donc je dirais que on voit que des personnes sont beaucoup plus à risque que d'autres d'avoir à souffrir des complications de ces deux maladies. Donc il faut se protéger. Après, il est vrai que dans des pays où la saturation du système hospitalier est déjà très importante, c'est le cas du Royaume-Uni dont on parlait, mais aussi des pays de l'Est, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'offrir le luxe, si vous me permettez cette expression pas très heureuse, mais d'avoir en plus une vague de grippe qui viendrait saturer complètement le système hospitalier.
Est-ce que contracter l'un des deux virus accroît les risques de développer une forme grave de l'autre? Est-ce que avoir la grippe rend plus fragile et plus à risque d'avoir une forme grave de Covid?
Alors, il y a peu de papiers là-dessus, il y en a quelques-uns, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience sur cette infection concomitante. Mais il y en a quelques-uns qui semblent montrer, qu'il y en a un qui est paru notamment dans une revue britannique, qui semble montrer qu'on aurait deux fois plus de risques de complications lorsqu'on est infecté par les deux virus. On peut un peu le comprendre, hein, c'est des virus qui vous mettent au tapis. Oui. Le virus de la grippe chez une personne âgée, ce n'est pas vraiment souhaitable. Et si en plus de cela, il fait aussi une forme de Covid, le risque et une complication semblent plus importants.
Antoine Flahaut, je ne sais pas si c'est précisément votre terrain de jeu, mais beaucoup de questions autour de pourquoi faut-il la troisième dose avec Pfizer et pas, par exemple, avec Moderna et ou d'autres vaccins. La réponse est parce que les autorités de santé ont tranché dans ce sens, c'est ça?
En fait, la réponse est parce que l'Agence de sécurité des médicaments, l'Agence européenne du médicament, a approuvé le Pfizer pour la troisième dose et pas encore les autres vaccins. Et c'est pas tellement le fait des gouvernants, c'est pas tellement non plus le fait de l'agence elle-même, c'est le fait que les fabricants n'ont pas encore déposé les dossiers pour la troisième dose et c'est comme ça que ça se passe pour les médicaments. Quand les médicaments sont approuvés, peut les recommander, la politique publique peut s'emparer de ces outils pour faire sa politique, mais quand les médicaments ne sont pas homologués, eh bien, voilà, la troisième dose n'est pas homologuée pour les autres vaccins.
Il nous reste une petite trentaine de secondes. Y a-t-il encore des pays qui sont à la recherche du Covid zéro et qui suivent cette politique, Antoine Flahaut?
Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a essentiellement la Chine et Taïwan. Ce sont les deux pays qui résistent un peu. Maintenant, des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui ont abandonné, ou Singapour, connaissent d'ailleurs des vagues. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le zéro Covid. Ils n'ont plus la possibilité de contrôler la situation complètement. Ils ont quand même encore des niveaux très très inférieurs à ceux qu'on peut connaître, par exemple, en Europe de l'Est.
Merci beaucoup Antoine Flahaut d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Il est 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Un historien dont le nom revient fréquemment dans cette pré-campagne.
Ah, Jacques Bainville, le grand historien nationaliste.
Vous nous détaillerez son portrait. Le feuilleton avec le dernier guitariste de Georges Brassens, Joël Favreau, grâce à Jérôme Cadet. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Du 1er au 3 novembre, l'humoriste Élodie Poux sera au Casino de Paris pour jouer son One Woman Show intitulé Le syndrome du Playmobil. Elle est à votre micro aujourd'hui, le temps d'une chanson.
Et avant de parler chanson, je lui ai tout d'abord demandé ce qui l'avait amené à devenir humoriste.
Je crois qu'on décide pas vraiment. On décide de monter sur scène avec 3 sketchs et ensuite c'est la vie qui décide de ce qu'elle fait de ça. Moi j'avais pas du tout décidé d'être humoriste. Je me suis inscrite à un cours de théâtre le jeudi soir pour rencontrer des gens et m'amuser. C'était pas du tout prévu. Mais ça a marché, alors j'ai suivi ce destin-là.
Vous faites rire depuis toute petite ?
Je pense que j'ai toujours essayé de faire passer plein de choses par l'humour. On peut se sortir de toutes les situations par l'humour. Le conflit, la honte, l'humiliation, en riant de soi, en sachant rire de la situation. Et puis ça permet de rester heureux aussi. En riant, le cerveau enregistre qu'on va bien. Alors que si on se plaint tout le temps, il enregistre qu'on va pas bien. Il faut arrêter de se plaindre, il faut sourire. La vie, elle est belle.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier.
Et c'est donc « Quand je t'aime », tube de Demis Roussos, qu'a choisi de nous faire écouter Élodie Poux.
Titre sorti en 1987, à l'époque, elle avait 5 ans, Élodie Poux, et c'est beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard que cette chanson a débarqué dans sa vie, en même temps que celui qui est devenu son mari.
On était dans un festival d'humour à Arrache-Beaufort, ski la journée et jouer le soir, formidable festival. Et j'ai rencontré ce gars-là, qui a quelques années de moins que moi, qui fait de la scène comme moi, et qui chante cette chanson du matin à 7h sur les remontées mécaniques jusqu'au soir à la descente. Et ça me saoule. Et en plus, je trouve ça hyper ringard d'Aimée Roussos à l'âge qu'on a à l'époque. Et plus il la chante et plus j'écoute ce que la chanson dit et plus je la trouve belle et plus je le trouve beau lui aussi. Et on a dansé dessus. Ça a été l'ouverture du bal à notre mariage il y a 3 ans. Donc voilà, cette chanson fait partie de ma vie. Et quand je la réécoute aujourd'hui, je me rappelle que c'est comme ça qu'il a finalement réussi à me séduire.
Il vous a séduit grâce à Demis
Roussos. Grâce à Demis Roussos. Avant, l'image que j'avais de Demis Roussos, c'est ce qu'en disent les inconnus dans Télémagouille, que c'est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme. Mais j'en savais pas plus.
Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèver.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. C'est pour ça aussi que j'ai épousé ce mec-là. C'est que dans ses yeux, je me voyais, moi aussi, telle une reine et une chevalière, hein, s'il faut féminiser le mot chevalier. Et on est des gens normaux, donc on s'engueule, on a un gosse, on dort pas, et on a le crédit de la maison à payer, et des vies totalement what the fuck, et on se croise dans la semaine, on se jette l'enfant en disant tiens, c'est ton tour. Mais je sais qu'on survivra à tout ce qui peut nous arriver.
Est-ce que c'est une chanson qu'il vous arrive de fredonner aujourd'hui ?
Ah oui, en faisant les carreaux souvent.
Vous faites souvent les carreaux ?
J'aime bien. Non, je les fais rarement. La dernière fois, c'était une technique qu'on m'avait donnée pour accoucher plus rapidement. J'ai fait les carreaux et le lendemain à 9h, je perdais les os. Donc ça marche vraiment bien.
Mais nos rêves se ressemblent.
Quand je t'aime, Demis Roussos, c'était donc, Frédéric, le choix de l'humoriste Élodie Poux.
Qui sera sur la scène du Casino de Paris du 1er au 3 novembre dans son One Woman Show, le syndrome du Playmobil.
Merci Frédéric Pommier. Le feuilleton une semaine avec Joël Favreau, le dernier guitariste de Georges Brassens. Brassens aurait eu 100 ans ce vendredi. Joël Favreau, lui, a 82 ans aujourd'hui et depuis plusieurs années, il chante Brassens dans les écoles et les salles. C'est l'épisode 3 de ce feuilleton au micro de Jérôme Cadet. Comment chanter Brassens aujourd'hui ?
Ce soir, je vais chanter Brassens à une formule aussi réduite que la sienne. C'est-à-dire que lui, il était juste avec Pierre-Nicolas à la basse, mais moi, je serai avec Rodrigue Fernandez à l'accordéon.
On commence par quoi ce soir alors ?
Je crois que je commencerai comme il l'avait fait dans son dernier tour de chant à Bobino, en 76-77. Il commençait par une chanson qui s'appelle « Trompe la mort ».
Changer régulièrement, c'est un tour de chant qui vient comme ça selon l'humeur ou bien c'est toujours le même ?
Ah ben non, ça c'est, il y a quand même pas loin de 200 chansons, et alors j'aime bien varier un petit peu. Mais là en ce moment, je trouve que cette chanson qui commence, je dois faire le début, la chanson commence comme ça. Avec cette neige à foison qui coiffe ma toison, on peut me croire à vue de nez blanchi sous le harnais.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est rien que de la poudre aux yeux, c'est rien que de la comédie, que de la parodie. C'est pour tenter de couper court à l'avance du temps qui court, de persuader ce vieux goujat que tout le mal est fait déjà. Mais dessous la perruque j'ai mes vrais cheveux couleur de jais. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux.
Alors là, je me sens un petit peu, de plus en plus, je me sens concerné par cette chanson. Alors, je m'en prive pas pour commencer, ça met tout le monde à l'aise.
Je m'exhumerai du caveau pour saluer sous les bravos. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux.
J'ai changé un petit peu, peut-être un ou deux accords comme ça, mais c'est pas grave, ça, tous les jazzmen le font dans les thèmes, de temps en temps ils bidouillent un accord ou deux, mais l'essentiel c'est de rester fidèle à l'esprit général, la chanson est de la musique et des paroles.
Est-ce que c'est compliqué de s'approprier Brassens quand on est musicien ?
Ben, il faut quand même étudier ça de très près, parce que Brassens, il avait beau prétendre que oui, mes musiques ne doivent pas se faire remarquer pour ne pas détourner l'attention des paroles, ça doit être comme des musiques de film. Si les gens remarquent les musiques, c'est foutu. Il disait ça, mais je le soupçonne fortement de coquetterie, parce que quand même, il les avait drôlement travaillées, ces musiques, comme le reste. Il a aussi une rythmique à la guitare, une rythmique d'acier, hein, qui c'est une locomotive qui va d'un bout à l'autre, et sur cette rythmique, il se balade comme un chanteur de jazz qu'il est.
Ça fait 40 ans que Georges Brassens est parti. Vous qui l'avez connu, quel est le secret ? Pourquoi ces chansons, elles vivent encore ? Elles se transmettent encore ?
Je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, parce que je ne suis pas un exégète. Je ne peux que constater. Voilà, c'est vrai que Brassens, c'est universel dans le temps et aussi dans l'espace, puisque j'ai joué avec des musiciens afghans, des musiciens libanais, des musiciens béninois, même un artiste kanak en Nouvelle-Calédonie. Et chaque fois, c'était une rencontre formidable, parce qu'on se trouvait musicalement à un terrain de jeu qui était passionnant. Au départ, il voulait faire des chansons pour que les autres les chantent. Bah alors là, il est servi, parce qu'on en a un paquet à chanter Brassens.
Le feuilleton avec Joël Favreau. Le dernier épisode, ce sera vendredi. Demain, le 13-14, est à Nîmes. Question clé de l'émission, comment s'adapter au changement climatique. Et c'est Marion Lourd qui vous présentera l'émission à Nîmes. Tout de suite, le vif de l'histoire.
France Inter. Le 13-14.
Et Jean Lebrun, il est un historien dont le nom est réapparu dans le débat public ces derniers temps. Jacques Bainville, auquel Éric Zemmour fait régulièrement référence.
Ah, Bainville, 1879-1936. L'autre soir, l'arrière-arrière, petite fille de Bainville, s'est approchée d'Éric Zemmour, qui tenait meeting à Toulon, et elle l'a félicité. Et l'autre était très émoustillé. Moi, quand je parle d'un autre leader nationaliste contemporain, François Coty, l'arrière, petite fille m'écrit, mais c'est pas nécessairement pour me faire des compliments. Bainville, c'était à la tête de la Ligue royaliste l'Action française, l'historien maison. Il n'avait pas dans ce domaine de formation universitaire, mais il voulait en donner une aux hommes politiques. S'ils ne savent pas leur histoire, ils ne méritent pas davantage de confiance que des médecins qui n'auraient jamais fréquenté l'hôpital.
Mais quelle histoire ?
Bah, histoire partiale, histoire vraie, disait un autre éditorialiste de l'Action française. Bainville faisait de l'histoire politique et diplomatique apparemment classique, dressant de vastes panoramas de l'Europe où le rôle de chaque nation se trouvait déterminé par sa géographie. Dès 514, disait-il, Clovis, en même temps qu'il était baptisé, boutait l'ennemi héréditaire de l'autre côté du Rhin. L'ennemi héréditaire, enfin, l'Allemagne n'existait pas encore, non plus que la France d'ailleurs, mais elles étaient déjà constituées en ennemis complémentaires. C'est pas qu'on ne s'appréciait pas, la France de Bainville connaissait même mieux qu'aujourd'hui l'Allemagne. Mais Bainville l'aimait tellement qu'il aurait préféré qu'il y en ait plusieurs. Son livre, le plus célèbre, Les conséquences politiques de la paix, regrettait que le traité de Versailles, 1919, n'ait pas démembré l'Allemagne en créant une confédération rhénane qui aurait joué un rôle bienvenu d'État tampon. Pareillement, nous aurions dû soutenir l'Empire russe et l'Empire ottoman. Ils séparaient des masses asiatiques toujours menaçantes la civilisation. La civilisation, c'est la nôtre. Bainville n'imaginait pas un autre monde que dominé par l'Occident. Il est vrai qu'il n'était pas le seul à l'époque.
Et au point de vue du style, comment écrivait-il ?
Bah, comme il s'habillait, costume impeccable, pli de pantalon parfait, col haut, très grand style. Mais il aimait aussi produire des fables. En voici une, Jaco et Laurie. C'est Bruno, une histoire de perroquet.
Oui.
Jaco s'installe à la fenêtre de la bibliothèque d'un vieil érudit, monsieur de Corseleux, Lagouette Corseleux. Le soir tombe, et le creux de la nuit venu, le vieil homme meurt. Le livre qu'il lisait s'est échappé de ses mains, et à la dernière page ouverte, que lit-on ? Le désarroi d'un curé contraint de parler du haut de son clocher en ruine à un peuple étranger qui s'est substitué à ses anciens paroissiens. le spectre du grand remplacement déjà. Bainville néanmoins était convaincu que nos peuples d'Europe pouvaient retrouver en eux-mêmes la capacité de résister à la dissolution, et il saluait ainsi le vitalisme des Italiens qui avaient su se reprendre avec le fascisme. Mais le coq gaulois, je cite, hein, a-t-il encore ce qu'il faut pour têter la louve romaine, l'image est forte.
Alors il a été reçu à l'Académie française en septembre 1935 et il achève son discours par ces mots « Pour les renaissances, il est encore de la foi ».
Oui, mais il meurt tout de suite après, février 1936. Nous sommes en pleine campagne des législatives qui verront la victoire du Front populaire. Le catafalque de Bainville repose devant son domicile rue de Bellechasse, entouré de militants d'Action française. Une voiture a le tort de s'engager dans la rue. Elle transporte Léon Blum. Les jeunes camelots du roi, l'ayant reconnu, brisent la glace arrière et commencent à faire un mauvais parti au leader socialiste qui n'est sauvé que par l'intervention de gardiens de la paix et d'ouvriers descendus d'un échafaudage. Alors, Bainville détestait l'émeute, le coup de poing, et il n'est pas responsable des individus qui ont voulu transformer son enterrement en lynchage. Tout de même, Maurras, le chef de l'Action française, avait déclaré peu auparavant qu'il fallait attaquer les parlementaires qui s'opposaient à la guerre fasciste en Éthiopie au couteau de cuisine. Dans son conte mettant en scène des volatiles déchaînés, Bainville ne cessait de faire répéter au perroquet « Jaco, ça finira mal ».
Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Et la Terre au carré après 14h, vous êtes toujours dans les Vosges, Mathieu Vidard.
Et je suis les pieds dans le lac de Retournemer, Bruno.
Ah mais on dirait que vous ramez là, vous êtes en train de ramer.
On va ramer,
bon.
Absolument, ce sera le programme de cet après-midi.
À tout de suite.